Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber,
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4, en direct des studios, Yves au micro, pour la deuxième fois cette semaine. Et Laurent à la technique, oui, je dis la deuxième fois, parce que vous m'avez entendu lundi après-midi dans l'émission Trou Noir, l'émission de Serge et Monique, où il y avait la présentation des nouvelles émissions, dont la mienne nouvelle émission GMC+, hein, Gabriel, Maurice, Claude et les autres, que vous aurez jeudi prochain. Qui sera sur un thème, je vous le dirai, vous regarderez sur l'agenda de la radio. Vous pouvez le consulter d'ailleurs pour l'ensemble des émissions. Numéro du studio 01 43 71 89 40. N'oubliez pas de télécharger la souscription. N'oubliez pas que si vous êtes équipé, on peut maintenant nous écouter en DAB+, en région parisienne. Vous avez la possibilité de réécouter le podcast pendant 12 mois après la fin de la diffusion ou le télécharger pour l'archiver. Ça va être des collecteurs. Et ensuite, vous pouvez me consulter ma page Facebook Yves Jazzlib sur laquelle je mets l'ensemble des informations, playlists, pochettes des albums, etc. Si vous avez besoin de renseignements. DK51, @sfr.fr si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Voilà. Alors, ce soir, des merveilles, des petites merveilles, des pépites, des trucs hallucinants. Et je ne vais pas trop m'étendre parce que, évidemment, la parole sera à la musique essentiellement. Donc, des inédits, voilà. Des inédits qui sont sortis tout récemment avec, évidemment, comme d'habitude, le génial Zeffelmann, le Globetrotter, celui qui retrouve tout un tas de choses, dont les pochettes, les livrets, le contenu éditorial est absolument génial avec, en général, il se débrouille toujours pour avoir des témoignages des artistes de l'époque. Et là, c'est vraiment un plus. Et donc là, on va commencer par un album donc qui vient de ressortir de Youssef Latif, qui s'appelle Atlantis Lullaby, qui a été enregistré à Avignon en 1972, je crois, en juillet 72 à Avignon. Il est accompagné par Kenny Baron au piano, Avec également, je n'ai plus la section rythmique, mais je...
Bob Cunningham
à la contrebasse. Et voilà, et Albert If à la batterie, et donc ce sera également notre hommage à Albert If. J'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il nous a quittés il y a 15 jours, 3 semaines, et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc bah, voilà, ça va, on va faire d'une pierre deux coups. Alors Youssef Latif, bon, je vous le présente pas, hein, il a fait partie du sextet de Cannonball Adderley pendant de nombreuses années, dont notamment ce magnifique en public à Comblain-la-Tour, le dernier album de la compagnie Riverside, hélas, disparu depuis, mais qui est absolument fantastique. Alors c'est un musicien qui, au sein du sextet de Cannonball, jouait du ténor, de la flûte et du hautbois, ce qui était relativement rare. D'ailleurs, lorsque je vous avais fait une spéciale Cannonball, nous avions évidemment passé le blues qu'il faisait dans le Comblain-la-Tour avec le hautbois. Alors, je vous ai choisi un morceau qui est... C'est un double album, hein, donc je vous recommande de toute façon tous les disques là que je vais vous passer, je vous les recommande grandement. Je ne vais pas aller très très loin dans la présentation des musiciens. Kenny Barron était très jeune pour l'époque, hein, déjà, mais enfin très jeune. Physiquement, il n'a jamais fait très jeune, mais il était quand même plutôt plus jeune. Je vous ai choisi un thème qui s'appelle Youssef's Mood. Vous en avez pour plus de 17 minutes de musique. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je vous ai choisi ce morceau parce que ça commence de manière extrêmement potache, style boogie-woogie. Voilà, style même ce que les Anglais appellent du barrel house blues, c'est-à-dire du blues de bouge, de troquet, de tripot mal famé. Et puis tout à coup, ça va partir, mais dans la folie la plus dingue, mais vraiment la plus dingue. Et je vous ai choisi ça parce que, d'une certaine manière, ça me fait penser à l'esprit de Charlie Mingus, vu par le quartet de George Adams et Don Poulenc, quand ils sont partis du groupe de Mingus, et qu'ils ont fait ce quartet avec Cameron Brown et Danny Richmond. Avec ce côté un peu, par moments où ils faisaient des trucs folk, ou des styles vieilles chansons américaines, et puis ça se partait après complètement dans du délire free à mort. Et ben là, c'est exactement la même chose. Alors accrochez-vous, parce que surtout ne décrochez pas après les premières minutes, parce que vous allez voir, ça va être complètement dingue. C'est parti Laurent.
We like to do a blues that we call Youssef's Mood. Thank you. you, Kenneth Burns, Bob Cunningham, Kumba.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, bon, je pense que là, vous avez vu à quel point ça décoiffait. Alors, il y a quand même deux, trois choses à vous dire. Je sais pas si vous avez bien fait attention au solo de piano de Kenny Barron. À un moment donné, il fait la citation de Blues in the Closet de Oscar Pettiford, hein, évidemment, tout le monde avait reconnu. Et puis, quand Youssef prend le ténor, il y a quelques... au tout début, il y a une manière de jouer qui rappelle un petit peu celle de Lester Young, quelque chose qui est vraiment influencé. Et puis, ces petites montées chromatiques comme ça, très particulières, ben ça, il l'a appris chez Cannonball. Alors ça tombe bien parce que nous allons l'écouter dans un instant. Néanmoins, je voulais vous dire que dans le livret, il y a des choses tout à fait passionnantes. Notamment donc les souvenirs de Kenny Barron lui-même à cette époque. Un témoignage de la femme de Youssef Latif, Ayesha Latif, qui également témoigne. Et puis alors là vraiment c'est... tout à fait intéressant. Il y a également, pardonnez-moi, un témoignage d'Albert If, le batteur, qui nous a quittés. Un témoignage également de Reggie Workman, le contrebassiste qui a joué beaucoup avec Coltrane dans les débuts. Un témoignage également de Joe Lovano, le ténor. Donc vous voyez quand même du beau linge. Un témoignage de Benny Maupin, le saxophoniste tous instrumentiste qui a joué très longtemps avec Herbie Hancock, notamment dans les formations avant Ed Hunter's et pendant Ed Hunter's. Très très bon redoutable saxophoniste. Je vous ai passé les faces du coffret de Lee Morgan au Lighthouse. C'est lui qui joue derrière. Je peux vous dire que, enfin, il joue derrière. Il joue avec, quoi. Ça rigole pas. Il y a également un témoignage de James Carter, le saxophoniste ténor, et un témoignage de Sonny Rollins. Alors, dans les témoignages, Joe Lovano est toujours vivant. Évidemment, Benny Maupin aussi, James Carter aussi. Et Albert Tutti If nous a quittés. Je crois que Reggie Workman est toujours parmi nous aussi, je ne sais pas. Mais alors Rollins dit ceci, je terminerai là-dessus. Il dit « J'ai toujours essayé d'être une personne comme Youssef Latif » venant de la part de Rollins, qui a 93 ans, l'âge de ma maman, qui ne joue plus, mais qui a toute sa tête, eh bien, c'est vraiment un très bel hommage. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller, enfin, même plus que vous conseiller, je vous ordonne de vous procurer les merveilles que Zeffel... Je m'en fous, je fais ce que je veux. Zeffelman trouve toujours des choses absolument géniales. Donc c'est édité chez Elemental Music Records. Voilà. D'ailleurs, lundi, lorsque j'étais dans l'émission Trou Noir, Serge avait aussi, de manière très dictatoriale et autoritaire, prévu l'ordre d'entrée d'apparition des interviews. Donc, comme disait Élisée Reclus, l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Donc, on va terminer là-dessus. On passe maintenant à Cannonball Adderley sur un petit trésor, mais vraiment, c'est absolument génial. Ça a été enregistré à Bordeaux en 1969. Et c'est... le titre d'album s'appelle Burning in Bordeaux. Hein, donc, c'est-à-dire ça crame à Bordeaux. Je ne sais pas si c'est les estomacs à cause du pinard ou... Enfin, bon, voilà. Et là, pareil, là aussi, on a un très beau livret avec des témoignages, notamment de Chris Potter, de Roy McCurdy, d'Al Galper. Roy McCurdy, qui était le batteur, Al Galper, qui était un pianiste, qui a joué très longtemps avec Phil Woods. Chris Potter, donc, qui n'est pas le père de Harry, hein, rien à voir. Voilà, donc c'est absolument somptueux. Donc il y a Cannonball Adderley à l'alto. Alors vous allez voir, c'est absolument sidérant comment il joue en 1969. On a Il y a eu une sorte de petite polémique avec Cannonball quand il a commencé à jouer. On a dit c'est le nouveau Charlie Parker. Ça l'a beaucoup desservi à l'époque, mais en réalité, il s'est de plus en plus émancipé. Il y a son frère Nat Adderley à la trompette, au cornet, pardon, parce qu'il jouait plutôt du cornet. Il y a Roy McTurdy à la batterie, je ne sais plus qui à la contrebasse. Je pense que c'est... Je vais retrouver ça. En tout cas, il y a Joe Zawinul au piano. Et là, c'est tout à fait étonnant, parce que... oui, je crois que c'est Victor Gaskin à la contrebasse, il me semble. Voilà. Et donc, Joe Zawinul, qui a fait partie du groupe de Cannonball pendant très nombreuses années, avait un jeu de piano tout à fait, non pas hard bopper traditionnel, mais un peu dans cet esprit-là. Et là, à partir de 69, il s'en affranchit assez fortement. Et d'ailleurs, il y a des thèmes qu'il va jouer dans les tout derniers instants du quintet de Cannonball qu'il va reprendre après, parce que dans la petite tête de Joe Zawinul à l'époque, lui trottait l'idée de faire autre chose, et donc, comme vous le savez, c'est lui qui a fondé Weather Report avec Wayne Shorter. Voilà, donc nous allons écouter un titre de cet album à Bordeaux en 1969 qui est, mais alors pareil, vous allez voir, c'est redoutable, il y en a pour presque 14 minutes, ça s'appelle The Scavenger. Voilà, c'est parti, Laurent.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Well, yeah. We hope you don't mind. We want to try to adjust the sound amplification here.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors là, évidemment, il y a une petite séquence où Cannonball dit qu'il va faire une balance, un petit réglage, parce qu'il y avait des problèmes de son. D'ailleurs, on l'a entendu hein, quand même dans le disque. Il y a des moments où ça faiblit un peu. Globalement, c'est pas tellement gênant à l'écoute. Moi, quand je l'ai écouté la première fois, j'avais trouvé la batterie très, très, très envahissante. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose comme ça. Et donc, ils vont prendre quelques minutes pour régler le son. Et après, c'est reparti, évidemment, comme en 14. C'est vraiment un disque absolument génial à avoir aussi. Hein. C'est un double album. Et c'est, comme toujours, pareil, avec un très beau livret, avec des témoignages, donc, je vous l'ai dit, d'Al Galper, de Chris Potter, de Roy McCurdy, et également de Zef Feldman. Alors, évidemment, là, on est dans dans quelque chose qui prend là vraiment la forme pas du free, mais bon, voilà, quand même, Cannonball a joué avec Coltrane pendant de nombreuses années, et il faut pas l'oublier. On a toujours tendance à associer le Kind of Blue, mais il y a eu d'autres disques enregistrés où ils étaient tous les deux. Et donc, de fréquenter Coltrane, évidemment, ça donne des idées. Mais le plus remarquable, je trouve, c'est le travail de Joseph Vinul qui, là, commence à vraiment utiliser un nouvel idiome qu'il va réutiliser dans le Weather Report. Alors, pour l'anecdote, lorsqu'on regarde les concerts de Weather Report, Joseph Vinul, il a beaucoup, beaucoup de claviers dans tous les sens. Enfin bon, on rigolait même un petit peu à cause de ça, parce que on se disait que sans la fée électricité, Weather Report ne tiendrait pas la route. Bon, on va dire que les polémiques de l'époque ont un peu disparu et reste la musique. Mais ce qui est rigolo, c'est que il ne faut pas oublier que Joseph Vinul était un accordéoniste aussi. Et il avait dans ses synthétiseurs, il en a un. Alors au début, j'étais très surpris, je me suis dit, je comprends pas, il joue à l'envers, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, parce que, je dis ça parce qu'il y a une vidéo du groupe d'Herbie Hancock, Headhunters, en Allemagne, où ça a été filmé, la caméra sur un miroir. Donc, tout est inversé. C'est franchement gênant. C'est-à-dire qu'on a par rapport au pianiste, on a les graves à gauche et les aigus à droite, ce qui est vraiment, sur le clavier, les aigus à gauche et les graves à droite, ce qui évidemment, ne fonctionne pas. Donc, lorsque j'ai vu la vidéo d'un concert de Weather Report en Allemagne, j'ai vu qu'il y avait un clavier qui était complètement inversé. Alors, pas inversé, c'est-à-dire qu'en fait, quand il descendait la main vers les graves, enfin, ce qu'on peut appeler vers les graves, en fait, ça fonctionnait à l'inverse. Et donc, j'ai vraiment vérifié. Et il avait un clavier inversé. Donc, ça, déjà, c'est un peu space au niveau du cerveau pour arriver à pouvoir scinder comme ça, à ce point-là. C'est quand même... Voilà, c'est pour dire que ces musiciens n'étaient pas... Comment dire, s'ils ont eu le succès qu'ils ont eu, ce n'est pas du tout par hasard. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Alors, on va continuer avec Cannonball Adderley. Alors là, l'apothéose. Ça a été enregistré à l'Olympia en 1972. Et là, ce n'est plus Joseph Vinul qui est au piano, mais George Duke. Et George Duke, absolument magnifique, vraiment magnifique pianiste, qui va s'en donner également à cœur joie. Et il y a Walter Booker à la contrebasse, très très bon. Et je crois que c'est toujours Roy McCurdy à la batterie, il me semble. Et donc c'est un album, celui-là qui est simple, mais qui va enregistrer la session de l'Olympia. Il va enregistrer les deux sets sur le même disque. Alors, c'était enregistré donc en 1972, et c'est vraiment sidérant. Et donc je vous ai choisi le premier thème qui s'appelle The Black Messiah, c'est-à-dire le Messie noir. Et ce Black Messiah fait également l'objet d'un album, d'un double album qui s'appelle Black Messiah, qui a été fait sous l'égide d'un producteur dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous le retrouver, qui était assez étrange. C'était un album un peu foutraque avec plein de trucs, avec un guitariste de blues très très particulier. Et qui va être quasiment la fin, puisque Cannonball est mort en 75, hélas. Et donc, juste pour l'anecdote, j'en fais une petite parenthèse. On l'appelait Cannonball, boulet de canon, mais en fait, au départ, on l'appelait plutôt Cannibal. De Cannibal, c'est devenu Cannonball. Cannibal, parce que bon, quand on voit le bonhomme, hein, c'était quand même quelqu'un de très très imposant. Il était capable de manger un poulet en l'espace de 48 secondes. Donc, voilà, c'était quelqu'un qui avait un fort gabarit, un fort appétit, mais quelqu'un d'extrêmement extrêmement sympa. Et puis, quelque chose qui s'est un peu perdu, je trouve, c'est cette capacité qu'il avait à communiquer avec le public, à expliquer des choses. Là, dans cet album de l'Olympia, ou celui de Bordeaux, je ne sais plus, il explique, par exemple, qu'il a un titre d'un morceau qu'il va jouer, et qui est une expression argotique américaine, mais dans la communauté noire, pour expliquer que les noirs, ils en chiaient quand même pas mal, quoi, l'esclavage, tout ça, bon. Et il prend le temps d'expliquer tout ça, et voilà, je trouve que c'est à la fois évidemment sympa, mais c'est aussi un petit travail de transmission, donc voilà, c'est plutôt... plutôt génial. Donc, nous allons commencer par ce Black Messiah qui est... vous allez voir, là, George Duke, c'est le festival. C'est parti, Laurent.
Thank you. Thank you.